Bonsoir à toutes et à tous, merci de nous avoir rejoints sur la première. Bienvenue à Libre Ensemble, nous sommes ravis d'être avec vous pour ce nouveau rendez-vous de la laïcité. Jacques Nizin à la technique, Catherine Axe au micro, on prend un coup de jeune ce soir, on va croiser les générations. Tout le monde sait que les dés sont truqués, tout le monde sait que la guerre est terminée, tout le monde sait que les bons gars ont perdu, les pauvres restent pauvres et les riches s'enrichissent. C'est comme ça, tout le monde le sait. That's how it goes, everybody knows, c'est de Leonard Cohen. C'est pas très joyeux, mais d'aucuns disent que c'est un peu le monde qu'on va laisser à nos lardons. Alors comment les jeunes voient-ils leur avenir? Comment comptent-ils s'en sortir? Quelle est leur idée du monde, de la démocratie, de la laïcité? Quel est l'engagement pris aujourd'hui au sein de la cité par les moins de 30 ans? Et si ce soir, on nous et la jeunesse, en compagnie de Rachel Mahy. Bonsoir Rachel.
Bonsoir.
Vous êtes présidente de la commission culturelle de l'ULB, adjointe du recteur aux affaires culturelles et toute jeune diplômée en polytechnique.
C'est exact.
C'est exact. Bonsoir Thomas Gillet.
Bonsoir.
Vous êtes président des anciens de l'ULB, vous êtes aussi dans l'administration du CALCOM ici et de la régionale de Bruxelles. Hamza Belakbir.
Belakbir.
Bonsoir.
Bonsoir.
Président du Cercle du Libre Examen, Université Libre de Bruxelles. On va d'abord peut-être commencer par votre parcours, parce que tous les trois vous êtes engagés, vous avez envie d'œuvrer, vous avez envie de faire bouger les choses. Et on va commencer, honneur aux femmes, par Rachel. Vous avez déjà des responsabilités depuis quelques années, vous avez même tout récemment organisé un énorme événement, un gros projet à l'ULB pour mettre en parallèle les motivations des étudiants en 1940 et aujourd'hui. Alors racontez-nous sur quoi se basait cet événement et comment ça s'est passé.
Le cadre du projet donc 45-15, qui est le nom de cet événement, c'était en effet le but de faire réfléchir les étudiants et le corps universitaire ainsi que les extérieurs sur l'engagement étudiant qui avait pu avoir lieu à l'époque et l'engagement étudiant donc qu'on avait actuellement sur les campus ou même dans la société en général. Le but était donc de faire un parallèle en ayant tout un aspect historique, bien sûr, sur ce qui s'était passé exactement à l'ULB à ce moment-là. Et puis d'autres rapprochements via des pièces de théâtre ou via des capsules audio radio ou via des conférences qui permettaient de ramener cette réflexion à l'heure actuelle, quoi.
Et alors, est-ce que ça a donné, ça a bien donné? Il y a eu vraiment un suivi, ça fait succès. Et quelles sont les conclusions de cet événement-là? Qu'est-ce qu'on a pu observer?
En fait, il n'y a pas eu énormément d'étudiants qui sont malheureusement intéressés au projet, mais c'était pourtant pas un échec, dans le sens où il y avait quand même, les conférences étaient quand même remplies, les différentes visites ont été aussi remplies, en tout cas certains jours. Donc c'était pas du tout un échec, mais par contre c'est un peu dommage que les étudiants ne sont pas un peu plus intéressés au projet, et surtout la communauté universitaire dans son ensemble. Donc les étudiants qui ont participé à l'organisation ont ramené leurs amis évidemment, et tout cela a permis de poser pas mal de réflexions, mais ça restait un peu dans le même cercle d'étudiants déjà engagés et déjà réfléchis. Ce qui n'était pas le but, donc à revoir pour la suite, parce qu'il y a une suite au projet en avril avec la publication d'un livre qu'on va sûrement faire gratuit pour pouvoir le distribuer à tout le monde, qui retrace en effet les différents événements à l'époque à l'ULB et essayer de faire en effet des parallèles avec certaines activités aujourd'hui et certains événements qui peuvent arriver aujourd'hui par rapport à l'engagement et par rapport à la résistance.
Donc net recul de l'engagement jeune aujourd'hui par rapport à hier, ou c'est quand même un peu raccourci comme conclusion?
C'est un peu raccourci parce que étant vraiment dans un microcosme qui est l'ULB, c'est très compliqué d'avoir une vision large de l'engagement étudiant. Après, en tant qu'adjointe du recteur et président de la commission culturelle, je gère les cercles étudiants. Il y en a 70 sur le campus, ce qui n'est pas rien. Par contre, là-dedans, il y en a 30 qui sont essentiellement folkloriques. Donc, il faut déjà retirer cela par rapport à l'engagement réellement citoyen. Et de ces personnes-là, par rapport au nombre d'étudiants au total, ça ne correspond en fait qu'à 5 à 10% maximum des étudiants de l'ULB qui sont réellement engagés. Donc moi je considère que c'est trop peu, mais ça reste quelque chose qui existe dans notre microcosme. Mais les étudiants qui sont engagés se connaissent entre eux et restent entre eux, et donc ont l'impression que tout le monde s'engage, même si c'est pas forcément le cas.
Hamza Belakbir faisait un geste. On évince les cercles étudiants un peu folkloriques, festifs, mais on peut s'engager en buvant une bière aussi. C'est ça que vous voulez dire, Hamza?
Oui, bien évidemment, on peut s'investir, mais sauf que, enfin, de mon humble expérience dans les cercles étudiants, qu'ils soient folkloriques ou autres. On remarque quand même que les cercles folkloriques s'engagent rarement dans des causes qui sont d'ordre citoyen, à part. Et la dernière expérience menée ici au Centre d'Action Laïque le prouve, c'est que suite à la crise des réfugiés qu'on a eue en novembre, octobre, novembre, etc., là, on a eu une mobilisation des sacs folkloriques qui n'a pas
assez
été initiée. Qui n'a pas été initiée par sacs folkloriques, mais en tout cas, la cause a rassemblé tout le monde. Et il y avait, je pense, tout le monde qui était là, tous les comités de, même de baptême, de cercles folkloriques qui étaient là en train de servir du thé à 4 heures du mat pour des réfugiés. C'était une image difficilement imaginable.
Hormis ces cas exceptionnels, que font les cercles étudiants aujourd'hui?
Encore une fois, ça dépend des cercles. Il y a les cercles politiques, les cercles socioculturels, les cercles folkloriques. Les cercles politiques, c'est des cercles qui poussent... Enfin, qui sont des cercles militants.
Ils sont moins nombreux que les autres, alors?
Ils sont beaucoup moins nombreux. Il y a à peu près un représentant pour chaque parti, sauf le CDH, qui n'a pas de représentant à l'ULB.
Mais ni l'FDF.
Ni le
Défi, pardon.
Défi. Mais ça brasse combien d'étudiants, par exemple, ces cercles-là, vous pensez?
Les cercles politiques, une septantaine d'étudiants au total.
Dans 50 du COMAC.
Dont, voilà, mais donc une septantaine d'actifs, hein, pas juste de, pas, on compte pas les membres, on compte ceux qui organisent réellement les activités et qui participent au cercle. Je pense que c'est cela. Après, il y a d'autres cercles qui sont engagés, mais pas purement politiques, comme par exemple l'association Trade Union Belgique ou Solidarité étudiante en Belgique ou Amnesty International section ULB.
Oui, ça c'est de l'engagement citoyen.
Tout
évidemment.
Sont des engagements citoyens directs et. L'aide au développement, qui est moins... Enfin, l'association étudiante d'aide au développement, qui, elle, est décentralisée, évidemment, pas sur la Belgique, sur l'Afrique, mais qui est aussi un engagement citoyen directement. Donc, il existe des cercles qui sont vraiment engagés. Ça.
Et vous les chapeautez? Vous êtes là pour les encadrer, et donc vous les rencontrez souvent?
Alors, non, c'est très important de dire qu'on ne chapeaute pas les cercles. Justement, la politique de l'ULB, c'est d'enregistrer un certain nombre de cercles et donc de les faire exister sur le campus et de leur mettre à disposition les locaux, les auditoires.
Mais totale liberté.
Et une totale liberté dans leurs actions. Ils doivent simplement, en fonction des cercles de libre examen, par exemple, chaque fois qu'ils organisent un débat, doit rendre une fiche pour expliquer qui est, ils organisent un débat et quels sont les intervenants. Mais le simple but de cela est donc de faire une meilleure gestion et de faire en sorte de ne pas inviter des personnes non grata, par exemple,
oui,
si jamais, mais par pure maladresse, parce que les étudiants restent des étudiants et certains n'ont pas le métier et ne se rendent pas compte qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas acceptables à inviter. Mais c'est vraiment, voilà, le but n'est surtout pas de les chapeauter, mais au contraire de créer une politique culturelle de l'ULB à travers les initiatives complètement différentes et pluriel de tous les cercles.
Alors Hamza Belakbir, vous êtes donc président du cercle Libre Examen. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi vos actions et pourquoi cet engagement-là?
Ah, mais qu'est-ce que le cercle du Libre Examen? C'est un cercle étudiant qui a eu le 14 janvier 88 ans. Un cercle qui marie, selon moi, je vends ma chapelle, mais qui marie très bien action et réflexion, à savoir, on a déjà eu un cercle du Libre Examen qui a envoyé des étudiants soutenir les Républicains en Espagne, un cercle du Libre Examen où le fameux Jean Burgers, l'étudiant résistant à l'ULB qui était secrétaire du cercle du Libre Examen, ça a toujours été un noyau d'action menée sur l'UNIF. Ça en matière d'action, même aujourd'hui sur l'action de réfugiés, nous avons été parmi les, on va dire, le noyau encore une fois dur de la gestion de la crise des réfugiés ici au CAL par l'ULB. Et en matière de réflexion, notre rôle, en fait, ce qu'on fait majoritairement, c'est pousser les étudiants à la réflexion. En organisant des conférences, beaucoup de débats, en invitant, en essayant un peu de contourner le fait que des étudiants n'ont pas beaucoup la télé et qu'on lit de moins en moins les journaux, malheureusement. Et du coup, vu la contrainte des horaires étudiants et de la vie étudiante, nous, on se dit, un lundi soir, un mardi soir, un mercredi soir, un jeudi soir, on doit offrir aux étudiants de l'ULB la possibilité de venir réfléchir avec nous sur une question.
Insuffler des réflexions sur des thématiques.
Exactement, en invitant des gens que, par exemple, on peut voir, en guillemets, que dans la télé, avec qui on ne peut pas interagir. Et du coup, là, je pense que c'est une chance que le Librex offre aux étudiants.
Vous êtes combien dans ce cercle-là?
Dans le conseil d'administration, nous sommes 29. C'est une première depuis, je pense, la création du cercle. Mais dans les membres, il y a un retour un peu... Il faut savoir que dans les années 80, le Librex comptait dans les 2000 membres. Sauf qu'il y a eu des fractures entre le Librex et d'autres cercles folkloriques. Ce qui fait que maintenant, ça a chuté jusqu'à... Ça traînait dans les 50, 60, 70 membres. Sauf que là, on est remonté. Là, on est à 300, 350 membres. Cette année, c'est aussi une première. On remarque quand même qu'il y a un retour d'intérêt pour ce qu'on fait, et c'est d'autant plus
encourageant. C'est l'air du temps, ça vous pensez ?
L'air du temps, non, je dirais pas, mais je pense que l'actualité fait que les gens, les étudiants spécialement, se posent de plus en plus de questions. Et ils se disent comment on peut agir. Je dis pas que le Liprax est la seule façon de réagir par rapport à ce qui nous entoure, mais c'est une des manières, et je pense que on vend bien aussi le produit.
Thomas Gillet, l'engagement jeune, ça veut dire quoi pour vous ?
Ah, ça veut dire quoi pour moi, l'engagement jeune ? Ben, question compliquée, mais avant tout, je voudrais rectifier. Je ne suis pas président de l'Union des anciens étudiants de l'ULB. Je m'en voudrais d'usurper le titre. Je ne suis que vice-président.
Désolé.
Donc
bien,
voilà, comme ça, les choses sont claires. Alors, l'engagement étudiant, l'engagement jeune. Étant étudiant, dans mon parcours universitaire, j'étais très peu engagé parce que je considérais pratiquement tous les combats, notamment ceux de la laïcité, comme étant des acquis. En vivant dans une bulle, et comme ça a été dit tout à l'heure, on est entre nous et donc on se dit « Ah ben bon, c'est acquis, c'est pas grave, tout va bien » et on pense, en fait, même si on a des divergences de vues sur certaines choses, sur les fondements, on est d'accord sur tout. Il a fallu que je commence dans ma vie active et professionnelle comme professeur de morale pour me rendre compte que non, ces valeurs fondamentales et ces luttes, qu'elles soient sociales ou pour les libertés qui sont portées par la laïcité depuis des années, n'étaient absolument pas acquises pour une bonne partie de la population. Et ça m'a conforté dans mon envie de militer et donc de m'engager à ce moment-là. Mais il a fallu que je sois confronté à cette réalité. Je pense que pour un certain nombre de jeunes, c'est aussi une nécessité. Il y en a pour qui c'est naturel de s'engager, qui le font aussi... je vais dire héréditairement, hein, ils ont autour d'eux des gens qui se sont toujours engagés et par les rencontres finissent par s'engager aussi. Et pour une certaine partie des jeunes, il y a un besoin en fait d'être confronté à la nécessité de s'engager. Je pense que dans la crise des migrants, ça a été une réalité aussi. Tous les cercles se sont mis autour. Pourquoi ? Parce que les gens se sont rendus compte du drame humain. C'est arrivé vraiment à leur porte et donc il y a une prise de conscience qui est... pas dire qu'il est apparu, parce que ça donnerait un côté un peu mystique, mais il y a eu une véritable prise de conscience. Je pense que c'est un petit peu comme ça que ça se passe, parce que la réflexion, en tout cas quand moi j'étais étudiant à l'université, j'ai beaucoup plus milité dans les cercles folkloriques que dans les cercles politiques.
Avec une bière à la main.
Avec une bière à la main ou plusieurs à la main. Mais la véritable question était toujours présente. Comment est-ce qu'on peut changer les choses ? Et ça, c'est un des points par rapport à l'engagement jeune qui est important. Je pense que c'est une question fondamentale. C'est le sentiment d'avoir la capacité de changer les choses. Et tant qu'on ne l'a pas, on ne sait pas
comment bouger
ou on se décourage assez vite. Mais à partir du moment où il y a quelque chose de concret qui s'offre et des possibilités d'action réelles, alors là, l'engagement arrive plus facilement, comme ça a été le cas avec les migrants. Donc je pense que l'engagement jeune, il a besoin de cette prise de conscience et de moyens d'action clairs sur la mise en œuvre.
Alors avec l'université, on parle de jeunes qui sont un peu plus âgés. Vous êtes en rapport avec des jeunes plus jeunes, plutôt secondaires, donc quoi, 15, 16, 17 ans. Qu'est-ce que eux donnent à comprendre, donnent à voir et demandent à comprendre?
Alors,
en matière d'engagement?
En matière d'engagement, ça leur paraît très lointain encore l'engagement. Quand on parle de politique, on commence à parler vraiment de politique en secondaire, dans le secondaire supérieur, 4e, 5e, 6e, on commence vraiment à aborder ces enjeux-là. La question réellement du qu'est-ce qu'ils cherchent à comprendre ? Ils cherchent à avoir prise sur le monde qui les entoure. Ça a été bien compris dans le décret citoyenneté. Pour sa mise en place, on demande aux écoles de mettre en place des conseils de classe, des conseils d'école, les plus démocratiques possibles pour que les jeunes puissent avoir une voix au débat, puissent avoir une place, qu'on les écoute, qu'ils puissent avoir prendre part aux décisions réelles d'organisation des classes, d'organisation des écoles, au maximum. Parce que il y a rien, à mon sens et de ce que j'entends, qui décourage plus les jeunes que de se dire de toute façon on n'y peut rien, on est là pour subir.
Bien
je pense
sûr.
Que ce qui tue l'engagement fondamentalement, c'est l'impression qu'on n'est pas acteur de la vie, quand on n'est pas citoyen si on n'est pas acteur. Et si vous ne donnez pas les moyens aux jeunes, en tout cas dans les écoles secondaires, d'être acteurs, ils n'auront pas l'envie de s'engager. Et je pense que c'est la même chose à l'université. Si vous ne donnez pas des moyens aux étudiants d'avoir une action sur le fonctionnement de l'université, mais aussi sur ce qui se passe dans la société, il y a moins de chances qu'ils s'engagent. Et ce sera la même chose quand ils seront citoyens. Il faut avoir le sentiment qu'on a une prise et qu'on est capable de changer les choses pour le faire.
Ont-ils peur de l'avenir ? ou est-ce que intrinsèquement la jeunesse a cet espoir en elle?
Ça dépend vraiment des élèves. Il y en a qui sont résignés, il y en a qui sont tout à fait idéalistes et qui vont changer le monde. Je pense que c'est pas nouveau. Je pense que les jeunes ne sont pas plus pessimistes qu'il y a 10, 15, 20 ans ou plus optimistes. Je pense qu'il y en a toujours parmi eux qui le sont fondamentalement, qui sont fondamentalement optimistes, d'autres qui sont fondamentalement pessimistes. Et puis, entre les deux, il y en a qui attendent un petit peu de voir comment les choses vont se dérouler pour faire des choix et pour s'engager à un moment donné.
Je pense surtout que... Contrairement, je nuancerais peut-être ce que tu as dit, Thomas, mais j'ai l'impression que actuellement, je pense que c'est mon avis, mais il y a quand même une plus grande marge de pessimisme chez les jeunes, pas parce que la situation fait que c'est le cas, mais je pense qu'il y a juste un manque de repères par rapport, par exemple, dans l'ambiance durant les fin des années 60, début des années 70, où tu avais, on va dire, la vague 68-arde, où tu avais des jeunes de 18-19 ans. Qui lisait des auteurs, alors qu'aujourd'hui, c'est absolument pas le cas. Il y a pas de combats qui font vibrer les jeunes comme ce fut le cas avant.
Nécessité fait loi. Si on n'a pas quelque chose pour contre quoi se battre, ça.
Je pense que voilà, on a atteint un certain degré de progrès en matière sociétale, et tant mieux, ce qui fait qu'on se repose un peu sur nos lauriers et on est un peu dans une ambiance, surtout à l'ULB où, comme l'a très bien dit Thomas, on est un peu toutes les valeurs pour lesquelles les gens se sont battus, on la prend pour acquise, et alors qu'en fait il y a eu des combats, des gens sont morts pour ce genre.
On oublie
ces luttes, et du coup, ce qui fait que il y a une certaine forme de mollesse intellectuelle qui s'est installée. Et j'accuse pas les jeunes, je pense qu'on s'inscrit tous dans cette lecture-là à quelques degrés différents. Mais je pense que cette mollesse intellectuelle ne fait plus de mal que de bien. Et je pense que, personnellement, que le progrès ne s'arrête jamais et qu'il faut continuer. Et que c'est pas parce qu'à l'ULB, on est tous d'accord que l'IVG est légale que ça le restera, par exemple.
Rachel Maï, vous vouliez réagir?
Oui, je voulais juste surenchérir sur ce que disait Hamza, parce que je pense que la différence, c'est ce qu'on a pu voir dans le travail du projet 45-15 dont je parlais, c'est qu'à l'heure actuelle, les combats sont beaucoup plus difficiles à placer, c'est-à-dire que les ennemis sont plus difficiles à déceler. Mm-hmm. Et donc, je pense que les étudiants, en effet, comme le disait Thomas, ils ont besoin de savoir d'avoir un but précis et une action concrète.
Un combat mondial trop gros, trop grand,
les combats, combattre Daesh, c'est pas à ma portée. Mm-hmm. C'est très compliqué. Donc c'est voir quels sont les réels ennemis et y mettre des actions, sachant
son petit niveau, ce qu'on peut faire pour faire un peu bouger les choses.
Sachant qu'évidemment,
ne pas oublier les luttes.
Si on revient à mon projet, mm-hmm. sachant qu'évidemment en 45, l'ennemi, il était très clair, mm-hmm. il était devant soi. C'était facile, donc, quelque part, de s'engager par rapport à cela ici, maintenant. L'ennemi, c'est une idée, c'est un concept, c'est trop lointain, donc c'est vraiment très compliqué, je pense, à l'heure actuelle, pour un étudiant, de s'engager dans du concret, quoi.
Thomas Gillet.
On est d'accord sur la question du concret, je te rejoins tout à fait. Je pense qu'il y a l'aspect aussi de bien différencier la mollesse intellectuelle et la mollesse d'action. J'ai l'impression qu'il n'y a pas tant de mollesse intellectuelle que ça. Je pense qu'énormément de jeunes réfléchissent, pensent, mais que de la pensée à l'action, il y a un écart qui est très grand, notamment en se disant, finalement, j'ai fait le tour de la question et je me rends compte que, fondamentalement, je peux rien y changer, donc je ne vais rien y changer. Mm-hmm. C'est un petit peu une forme de paresse finale. Par rapport au combat, je pense pas que les combats des jeunes ne soient pas présents devant eux, sauf que les combats sont différents et ce sont plus les mêmes acteurs. La question même de l'accès à l'emploi est un véritable combat pour beaucoup de jeunes. Il y a beaucoup de luttes sociales qui sont réellement importantes dans la reconnaissance de leurs droits, de leurs capacités, et donc les combats sont différents et ils ont peut-être l'impression qu'ils sont moins évidents dans la réponse qu'on peut apporter. Parce que la réponse qu'on doit apporter à la lutte pour l'emploi chez les jeunes n'est pas la même que de prendre un fusil et de s'engager dans la résistance. C'est pas les mêmes types de schémas qui vont se mettre en place. Et donc, à partir de ce moment-là, je pense que c'est aussi aux plus vieux d'entendre ça, et aux institutions, ceux qui occupent les institutions, aux partis politiques, d'entendre aussi les revendications de la jeunesse et de donner une part plus importante à ces jeunes dans le débat politique.
Justement, juste pour surenchérir, t'as attiré notre attention sur la question de l'emploi. Il y a aussi une certaine dimension que je pense qu'on n'a pas citée, c'est que à l'université, il y a beaucoup d'étudiants qui sont dans des situations financières qui ne leur permettent pas du tout de prendre du temps sur leurs études pour s'engager ailleurs. Enfin, je pense que nous sommes un peu tous des suicidaires à faire ça à côté de nos études. Et il faut se rendre compte que des gens rentrent dans l'obligation de... Il ou elle a 5 ans pour finir ses études.
Et ceux qui en sont là ont déjà beaucoup de chance.
Ont déjà beaucoup de chance, parce qu'il faut savoir que seulement 10% des inscrits à l'Université libre de Bruxelles n'ont aucun parent qui a fait des études supérieures. Donc on plaint toujours dans un système de reproduction sociale des élites qui est un mongo abject. Et c'est ça, il faut quand même attirer l'attention des gens que, oui, je tiens le discours où il y a une certaine forme de mollesse intellectuelle, mais mollesse d'action, comme a corrigé Thomas, il a raison. Mais il faut savoir qu'il y a des contraintes économiques qui font que les gens, quand on n'a pas de quoi manger le soir, on s'en fout du droit à l'avortement. Et a raison.
Allez, on fait une petite pause musicale. Everybody Knows de Leonard Cohen, mais version ici Rufus Wainwright. Des paroles que je citais en début d'émission, pas piquées des hannetons, mais la jeunesse va nous changer tout ça. Everybody Knows. On se retrouve juste après avec Rachel Mahi, présidente de la commission culturelle de l'ULB, Thomas Gillet, vice-président des anciens de l'ULB, et Hamza Belakbir, président du Cercle du Libre Examen de l'ULB, pour la suite de votre émission Libre Ensemble.
Everybody knows the dice are loaded. Everybody rolls with their fingers crossed. Everybody knows the war is over. Everybody knows the good guy's lost. Everybody knows the fight was fixed. The poor stay poor and the rich get rich. That's how it goes. And everybody knows. Everybody knows that the boat is leaking. Everybody knows that the captain lied. Everybody's got this broken feeling, like their father or their dog just died. Everybody's talking to their pockets. Everybody wants a box of chocolates and a long-stemmed rose. And everybody knows. Everybody knows that you love me, baby. Everybody knows that you really do. Everybody knows that you've been faithful, give or take a night or two. And everybody knows you've been discreet, but there were so many people you just had to meet without your clothes. And everybody.
Thomas Gillet, j'ai entre les mains un livre, celui de Vincent Cespedes, philosophe, qui a pour titre « Oser la jeunesse ». Et lors d'un événement tout proche, le week-end prochain, « We need youth », donc « Nous avons besoin de la jeunesse », organisé par le Centre d'action laïque les 18 et 19 mars sur le campus de l'ULB, vous allez rencontrer, tout comme la jeunesse va rencontrer la laïcité, c'est le but, vous allez rencontrer, vous, Vincent Cespedes, justement. Qu'allez-vous lui demander? Est-ce que vous allez l'interpeller, le secouer? Est-ce que c'est pas un peu facile d'écrire, voilà, bon, bah, osons la jeunesse. C'est vite dire, ça.
Alors, c'est vite dire, mais bon, il a écrit un livre juste derrière, donc je ne vais pas réduire le livre à son titre. Mais je pense que... Et je ne vais pas non plus annoncer mes questions à l'avance, j'aime autant le surprendre.
Il faudra venir.
Mais je pense que ce qui est intéressant dans la rencontre que la laïcité organisée propose avec les jeunes et avec un philosophe qui justement traite de la question de la jeunesse, c'est tout l'intérêt de pouvoir justement questionner les fondamentaux et nos moyens d'action. Parce que, comme je l'ai dit et au risque de me répéter, il y a peut-être chez les jeunes le sentiment que beaucoup des combats portés par la laïcité sont gagnés, ou que ceux qui ne sont pas gagnés, on ne peut rien y changer. Et donc, dans cette espèce de double illusion, on a tendance à oublier qu'on peut agir, qu'on peut s'engager. Alors, oser la jeunesse, je ne sais pas à qui ça doit s'adresser le plus. Est-ce que c'est aux jeunes, oser vous prendre en main et avancer, engagez-vous ? ou est-ce que c'est aux plus vieux,
à mon
oser
avis, laisser,
laisser la place
oui,
aux jeunes.
Probablement.
Donc, je pense que
il
c'est...
oppose les générations, en se disant qu'il faut dépasser ce syndrome de Chronos qui oppose les générations pour laisser la jeunesse faire.
Mais c'est tout à fait intéressant, mais en tant que professeur, je vis ça aussi dans la classe. Il faut oser le lâcher prise. Il faut oser laisser les étudiants ou mes jeunes étudiants arriver à écrire eux-mêmes les règles de leur classe, à se mettre d'accord sur comment doit fonctionner l'école, sur les programmes qu'ils aimeraient bien suivre et les accompagner. Parce que ça, il nécessite qu'il y ait un encadrement, qu'il y ait un dialogue, parce qu'on peut pas tout laisser non plus, et que venir dire tout ce qui est vieux est forcément mauvais est aussi suicidaire que de dire tout ce qui vient des jeunes est bon.
Pareil, d'accord.
Non, je suis radicalement pas d'accord. Enfin, je suis pas du tout d'accord avec la vision dite de laisser un peu les jeunes, surtout à l'école secondaire, planifier comment leurs cours doivent être organisés. Moi,
vous seriez pourquoi?
Je suis plus, enfin, je suis plus partisan d'une école un peu vieille école, parce que là, on voit un peu, je vais faire un peu leur réac de service sur la question de l'école, c'est que on voit une certaine chute intellectuelle, par exemple, on la remarque dans l'orthographe des jeunes aujourd'hui, et c'est dû, en fait, selon moi, cette émergence de pédagogie constructiviste à vouloir un peu à tout prix s'ajuster selon le besoin de l'élève, etc. Alors que quand on voit à la sortie, un élève qui finit secondaire doit juste savoir lire, écrire et calculer et correctement, et malheureusement on voit qu'il y a un déficit énorme là-dedans, et en partie parce que on commence un peu à trop s'habituer et s'ajuster selon le besoin des étudiants.
Mais bon, il faut leur apprendre à penser en plus de savoir compter et écrire, parce que
oui, bien évidemment.
La réflexion qu'ils peuvent avoir et qu'ils pourraient apporter est aussi intéressante. Et encore une fois, je ne suis pas pour le laisser faire à tout prix, mais je pense qu'il faut leur donner les moyens intellectuels après de pouvoir se dire voilà comment ça devrait fonctionner. Si on les bride directement en leur disant voilà le cadre et on n'en sortira jamais, ça se construit à la suite quand ils seront plus âgés aussi, dans l'idée que le cadre ne change pas. Et donc il faut aussi laisser cette place-là, même si il faut aussi tordre le cou à une idée préconçue. L'orthographe était lamentable il y a des années aussi, et il n'y a pas de statistiques tout à fait précises pour dire que c'est pire.
De toute façon, elle a évolué et elle se cale un peu sur les SMS maintenant.
Oui.
Rachel Maillot, vous qui êtes aux affaires culturelles, vous êtes d'accord avec ça?
Oui.
Un petit mot de la fin.
En fait, presque oui, bientôt. Moi, déjà. Je m'inscrirai un peu entre les deux, en fait, pour pas changer. Mais je trouve qu'en effet, pour l'instant, il y avait une réflexion sur le fait d'allonger le temps à l'école et toutes ces choses-là. Je pense que l'intérêt d'allonger à l'école, ce serait en effet pour introduire cette idée de réflexion.
Et de citoyenneté,
mm-hmm. En effet. Et que les cours d'EPA qui sont maintenant proposés sont, pour moi, des cours qui devraient absolument être axés sur la citoyenneté, mm-hmm. et que ça devrait se poursuivre en secondaire aussi. Il y a des cours obligatoires et de la philosophie et des sorties culturelles et des choses comme ça. Mais c'est, évidemment, tout ça est beau. Tout ça est
fantastique. Pour apprendre
ce fameux
vivre ensemble qui ne veut pas dire grand-chose pour la plupart des jeunes.
Qui ne veut pas dire grand-chose tant qu'on n'applique pas factuellement des recherches culturelles, des recherches philosophiques et la recherche même du libre examen, pourquoi pas. Qui va créer cette dynamique de réflexion et d'autonomie, surtout de l'enfant et de l'étudiant plus tard.
Rachel et Hamza, est-ce que vous serez des nôtres le week-end prochain? Viendrez-vous écouter Thomas Gillet? Je rappelle donc le week-end We Need You, c'est les jeunes et la laïcité qui se rencontrent sur le campus Sol Bosch à l'ULB. Un week-end d'activités diverses, donc vendredi 18, dès 18-19h on retrouvera Thomas Gillet. Une grande soirée de multiples débats, notamment avec Vincent Cespedes, suivi d'un showcase de Chico et Mendes. Et puis, alors, samedi 19, des ateliers radio, philo, du théâtre action, du live painting, un tas de concerts gratuits. Voilà, donc c'est un week-end d'événements organisé par le Centre d'Action Laïque. Venez nombreux, même si vous n'êtes plus si jeunes, tiens, qui vous nous écoutez, comme moi d'ailleurs. J'y serai aussi, bien sûr. Toutes les infos sur la page Facebook We Need Youth, Youth comme la jeunesse, W-O-U-T-H, ou sur le site internet du Centre d'Action Laïque, www.laïcite.be. Voilà, merci beaucoup d'avoir été là tous les trois.
Avec grand plaisir.
Ça referme déjà cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous de Libre Ensemble. Restez branchés sur la première. Pour la suite des programmes, à très bientôt et belle soirée à tous.